Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour vous servir. Nous allons parler tout à l'heure de Femmes d'Exception du Congo. Cette organisation, cette association qui organise la deuxième rencontre des Femmes d'Exception autour de l'inclusion financière des femmes. Madame Lydie Omanga Dianjou, présidente de cette association, est notre invitée aujourd'hui. Madame Omanga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composées les 097 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Jean-Claude Tiala sur la mise en onde. Tati Mapoukou est à la réalisation et à la coordination de cette émission. Jonathan Chimanga s'occupe de la diffusion live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute de cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, la belle Femme d'Exception du Congo, FDEC en sigle, organise le 3 décembre prochain à Kinshasa la deuxième rencontre des femmes d'exception. Et bien voilà. Alors pendant une journée, les femmes leaders venues des différents horizons vont échanger autour de l'inclusion financière. Et cette association est une, cette plateforme s'occupe de la sensibilisation, fait des échanges, c'est une rencontre d'échanges et des partages d'informations sur les questions majeures en rapport avec les droits de la femme. Alors, quelle stratégie mettre en place pour favoriser l'inclusion financière? C'est d'ailleurs le thème qui fera l'objet de la deuxième rencontre des femmes d'exception. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Madame Lydie Omanga, présidente de cette association Femmes d'Exception du Congo. Madame Omanga, bonjour et ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission.
Merci beaucoup, merci de nous avoir invités.
Alors, la première question est de savoir comment est né ce concept des Femmes d'Exception du Congo.
Alors, si je vais essayer d'être rapide parce que ce concept est né, a commencé à poindre le 3 décembre 2018. Vous voyez, alors à cette époque-là, nous sommes en campagne avec le candidat numéro 20, qui est l'actuel chef de l'État. Et on a organisé un événement au Centre Caritas pour justement mettre en avant les femmes qui s'étaient engagées en politique et qui étaient candidates du CASH. Mmh. Et à partir de là, en fait, je ne vais jamais cesser de réfléchir et de raisonner en termes d'implication des femmes, que ce soit au niveau du programme que le futur chef de l'État va présenter et proposer, même lors de la campagne, insister sur justement le fait du respect et de la promotion des femmes, que ce soit de la jeune fille par rapport au mariage qu'on doit interdire, etc., quand elles sont mineures, au fait de pouvoir aller à l'école, etc. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, quand le chef de l'État devient donc président de la République en 2019,
oui,
le 8 mars, je me dis non, il faut qu'on organise quelque chose de différent. On ne va pas que porter des pagnes, le pagne est très bien, mais il faut qu'on arrive maintenant à rentrer dans une discussion pour changer vraiment les choses. Et l'idée que j'avais eue à cette époque-là, comme j'étais directrice de sa communication, c'était de pouvoir mettre autour de lui des femmes, mais qui avaient réussi. Parce que je me disais
dans divers domaines, hein.
Exactement.
D'accord.
Je me disais, si on met des femmes qui n'ont pas réussi ou quoi, bon, on va rentrer dans les mêmes litanies. Et c'est pas ça qui est intéressant. L'objectif pour moi, c'était d'interpeller et surtout de le faire réagir et qu'il comprenne quel était le travail qu'il devait faire en tant que chef d'État. Donc, on avait autour de la table des femmes qui étaient présidentes au niveau du Conseil d'État, au niveau des entreprises publiques, qui avaient fait vraiment des choses où on ne pouvait pas nier qu'elles avaient, entre guillemets, réussi. Mmh. Et de tous les secteurs, effectivement, il y avait une représentante des femmes maraîchères, il y avait une représentante des médias, etc. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que le chef de l'État s'est dit, mais mon Dieu, c'est pas possible quand même, parce que si ces femmes-là sont en train, en fait, de me faire comprendre que le plafond de verre est toujours là en dépit de leurs compétences, en dépit de qui elles sont ou même de ce qu'elles peuvent produire, mais juste parce qu'elles sont femmes, mmh. on les relègue derrière la porte, on les
écoute
pas.
Au second plan, tout ça.
Non, mais même plus qu'au second plan, elles n'existent pas.
Oui.
Donc là, en fait, je pense qu'il a réalisé et il m'a dit ce jour-là, écoute, Lydie, je ne veux pas les voir que le 8 mars, je veux les voir tous les 3 mois. Parce qu'ensemble, nous devons changer les choses. Je ne veux vraiment que mon mandat soit vraiment placé sur le fait de contribuer à la promotion des femmes. Et c'est comme ça que chaque 3 mois, on a commencé à nous voir rencontrer le chef de l'État pour faire évoluer.
Pour parler de quoi ?
Alors, de quoi on parle ? On parle de parité, on parle d'inclusion, on parle des violences faites aux femmes, on parle en fait de toutes les questions de droit, mais aussi toutes les questions qui ont un rapport avec la femme, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de quelle manière la société devrait la considérer. Voilà. Que ce soit une jeune femme, que ce soit une maman, que ce soit une célibataire, que ce soit une grand-mère, de quelle manière le statut de la femme, en tout cas sous le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être perçu. C'est-à-dire qu'on doit vraiment marquer et changer les choses pour le bien-être de tous.
Mmh.
Voilà de quoi on parlait.
Bien. Alors, et c'est à partir de là que vous êtes arrivé à mettre en place cette organisation Femmes d'Exception.
Oui.
Et pourquoi cette...
Alors, encore une fois,
oui.
Comment ça s'est passé? Donc, je suis directrice de la communication du président. Donc, bon, bah, en tant que directrice, on crée des événements, on valorise l'action du chef à travers des actions de communication.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le chef de l'État me nomme donc comme vice-présidente à l'ARPTC, à l'autorité
des régulations
de la Poste et Télécommunications. Et donc, n'étant plus au niveau de son cabinet, bah forcément, moi je me dis bon, ça va continuer avec les autres membres du cabinet, hein, y a pas de souci, moi je peux être ailleurs, mais
ce qui n'était pas le cas.
Non, ce qui n'était pas le cas, et ce qui se passe, c'est qu'en fait le président me rappelle, il me dit mais qu'est-ce qui se passe
Pourquoi tu as arrêté avec...
Alors je lui dis mais président, n'étant plus dans le cabinet, je ne suis pas légitime. Parce qu'en fait, il y a une directrice de cabinet adjointe, il y a une porte-parole, il y a une chargée de relations publiques. Donc après, elles peuvent continuer. Hein. Moi, je suis passée à autre chose, à votre demande. Et il me dit, écoute, je pense qu'il faut vraiment que tu puisses raisonner ça de manière à ce que ça se pérennise. Parce que ce que je souhaite, c'est que nous puissions vraiment travailler sur la durée. En dépit aujourd'hui d'un cabinet ou autre, il faut que ça perdure.
Mmh.
Et c'est de là, après qu'en mars 2022, on va se structurer en ASBL. Donc, on rédige des statuts, le règlement d'ordre intérieur, un code d'éthique et de bonne conduite,
mmh.
et on part. Et puis, mais bon, comme vous voyez, quand vous invitez les personnes, elles sont contentes, les femmes, d'une manière générale, d'être autour du chef de l'État.
Oui, bien sûr.
Et tout maintenant, dès qu'il s'agit parfois de se structurer, de commencer maintenant à payer une cotisation,
bon. Ça devient compliqué. Hein.
Et voilà. Donc, d'une 60aine, on est passé à une 30aine.
Ah ouais?
Oui, mais une 30aine impliquées, motivées, et elles payent leurs cotisations. D'ailleurs, c'est grâce à ça, parce que nous, on a zéro subvention. Ce sont les cotisations de nos membres qui financent toutes les actions que nous faisons, notamment là, cette année. Notre thème a retenu, ça a été l'inclusion financière.
L'inclusion financière. Alors,
ouais.
Parlez-nous d'abord de la première édition.
Mm-hmm.
C'est quoi le thème? Comment ça s'est passé? Quelles étaient les résolutions?
Alors,
etc.
D'une manière générale, nous, on aime bien travailler dans l'ordre. Et la cohérence. C'est-à-dire qu'au niveau des femmes d'exception, on a un plan d'action. Donc ce plan d'action a 5 composantes, dont le leadership, la réduction de la fracture numérique, l'autonomisation des femmes, mais aussi l'environnement social et culture et art. Et du fait de ces différentes composantes, donc chaque année, nous prenons une composante, nous la mettons en avant et nous travaillons autour.
Mmh.
Donc pour la première édition, la composante, c'était la composante qui concernait le leadership des femmes et la participation politique. Donc c'est pour ça qu'on a organisé la première édition autour de la gouvernance inclusive.
Inclusive.
Voilà.
Et vous avez réclamé 30% hein, la participation
On réclame pas.
Dans les institutions, à hauteur de 30%.
On n'a pas à réclamer parce
bon,
que la Constitution dit que c'est la parité. Donc
ouais.
On est censé avoir 50%. Donc pourquoi vous voulez qu'on vienne réclamer 30 alors qu'on a droit à 50? Non. On ne réclame pas, on dit juste que nous devons appliquer la Constitution, nous devons appliquer nos lois. C'est nous-mêmes qui sommes les justiciables et nous ne respectons pas ce que nous sommes en train nous-mêmes de voter ou d'encadrer. Qu'est-ce qui va se passer après?
Et aujourd'hui, on est à combien de pourcents?
On arrive à tenir les 30. On arrive à tenir au niveau du gouvernement, on arrive parce qu'on veille vraiment et le chef de l'État lui-même y veille. Mmh. Donc souvent, effectivement, quand vous voyez que ça traîne, souvent ça peut traîner à sortir parce que justement le président considère qu'il n'a pas le quota des 30% des femmes et il demande aux différents partis politiques
de fournir un effort pour...
Ah non, plus qu'un effort, parce que ça c'est vraiment quelque chose auquel il tient. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que ça se passe aussi au niveau des entreprises publiques. Ça veut dire qu'au niveau d'un comité d'organisation, au niveau d'un CODIR ou autre, il faudrait qu'on arrive aussi avoir ce minimum-là, qui pour moi est un minimum de 30%, en sachant que l'objectif, c'est quand même d'arriver à avoir 50%. Il y a quelque chose qui est quand même assez interpellant. C'est ce que j'étais en train de dire devant le chef de l'État qui nous avait honoré de sa présence pour la première édition. Comment est-ce qu'on peut comprendre que les femmes ont fait partie de vos vies, les hommes? On vous met au monde. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos tantes, voilà, etc. Épouse, je disais, mais quand vous êtes malade, on vous soigne. Vous savez ? Donc, nous sommes là pour vous. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous dire que les mêmes personnes qui vous soignent, vous aiment, vous chérissent, vous protègent au niveau du travail ou du cadre de l'employabilité, on va devenir des empoisonneuses, on va devenir des femmes incompétentes, des idiotes ou... Non, je ne comprends pas. Les mêmes qui sont dans les maisons, c'est les mêmes qui sont au bureau.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler, mais de ne pas en parler dans un microcosme, d'en parler avec les pouvoirs publics, d'en parler avec les membres de la société civile et d'en parler aussi avec les concernés, les femmes. Donc, ça, c'était la première édition. Mmh. Et si je puis dire...
Qu'est-ce que ça a donné? Quelles étaient les résolutions?
Nous, ce qu'on a vraiment mis en exergue dans nos résolutions, c'est déjà le fait de pouvoir maintenant mettre en exergue et mettre en œuvre la loi sur la parité. Parce qu'on en a quand même une qui date de 2015. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est pas normal qu'elle ne soit pas toujours appliquée. Et je pense que ça, c'est justement sur ça que le chef de l'État va s'appesantir, avec l'aide de la ministre du Genre et du gouvernement et de tous les personnes au niveau de la société civile, dont nous aussi. On va vraiment y travailler parce que je pense qu'il faut vraiment avoir au moins un minimum. Et de deux, ce qui se passe aussi au niveau de la loi sur les mandataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les entreprises publiques, bien souvent, les numéros 2, que ce soit un homme ou une femme, en fait, ils sont complètement aphones. Donc, c'est une partie...
Il ne parle pas.
Non, ça, quand je dis aphone, je le dis de manière imagée, parce qu'il ne sait pas qu'il ne parle pas, parce que moi, je peux vous dire que je parle. Mais ce qu'il y a, c'est que la loi ne leur donne pas de compétences d'attribution. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez complètement vous passer des compétences d'une personne parce qu'elle est en train d'attendre qu'en fait, le préséant... se casse la gueule ou un problème. Non, il faut arriver justement
à faire... Mais il faut que ça soit déterminé, justement, les attributions des uns et des autres.
Par la loi. Et ça, c'est le cadre légal qui va faire en sorte qu'aujourd'hui... Et j'en parle pourquoi? Parce que bien souvent, les numéros 2 sont des femmes. On nous met toujours en numéro 2. Et je dis au chef de l'État, moi, sincèrement, je me sens pas particulièrement concernée parce que je sais qu'un jour, je serai numéro 1. Mais je suis en train de travailler, de militer pour le plus grand nombre. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on peut mettre des compétences d'attribution pour les adjoints, quitte à les limiter avec des seuils, etc. Mmh. Mais ça éclaire et ça permet de ne pas avoir des conflits stériles.
Et généralement, les adjoints sont étouffés par le...
Généralement, les adjoints sont étouffés. Puis généralement, les adjoints, en fait, on ne les considère pas alors qu'ils ont aussi une part à apporter dans la gestion de l'entreprise.
Bien, parlons maintenant de la deuxième rencontre des femmes d'exception. Ça sera le 3 décembre.
Tout à fait.
Ici à Kinshasa.
Au Pullman.
Au Pullman Hotel. Mm-hmm. Et vous allez parler de l'inclusion financière. Bien, avant d'aller plus loin, j'ai quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. Blaise Haïdi nous appelle de Kisangani. Mm-hmm. Et Thomas Ougeni également est à Boyoma, Kisangani Boyoma, Singamwambi. Blaise Haïdi, bonjour. Allô Blaise, bonjour.
Oui, allô cher Jeudi, merci.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà. Oui, ma préoccupation, la première est composée dans cette manière. Quelles mesures concrètes l'État congolais pourrait-il adopter pour renforcer l'accès des femmes aux services financiers? Deuxième, comment les institutions microfinance peuvent-elles adapter leurs produits pour répondre aux besoins spécifiques des femmes? Troisième, dans quelle mesure la digitalisation bancaire peut-elle réduire les inégalités d'accès entre femmes urbaines et rurales? Et pour citer, Quel rôle les associations féminines peuvent-elles jouer dans la promotion de l'éducation financière des femmes? Je me limite à ces quatre questions, cher Jody.
Merci beaucoup, Blaise. Thomas Ougeni, vous êtes aussi à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Et bonjour à madame l'invité.
Bonjour.
À tous les auditeurs de la radio, papy. Je pense, monsieur Jody, l'autonomisation économique des femmes, c'est un enjeu vraiment crucial pour le développement durable même du pays et la réduction surtout des inégalités. Parce que souvent, lorsque les femmes sont en train de défendre des hommes, c'est un sérieux problème. Et leur autonomisation pourrait pas soit peut combler c'est cet aspect des choses-là lié à leur dépendance là, vis-à-vis des hommes ou d'autres personnes, en quelque sorte. Mais face à ça, j'ai des préoccupations que j'aimerais pour vous.
Lesquelles?
La première question.
Oui?
La première question que j'aimerais poser à l'invité, c'est plus on s'attaque ici à des conséquences. J'aimerais que madame l'invité puisse nous donner en tout cas les causes, en tout cas. C'est aussi ça le problème, les causes. Et dans ça, la première question, c'est quels sont en tout cas les principaux obstacles socio-économiques qui empêchent les femmes d'accéder aux services financiers. Ça, c'est la première question, monsieur, à madame l'invité. La deuxième question, c'est par rapport aux politiques, monsieur Jody. Je pose la question à madame l'invité. Quelles politiques publiques peuvent être mises en place pour favoriser l'inclusion
financière
des femmes, monsieur Jody? Quelles sont en tout cas les politiques que madame l'invité pourra en tout cas nous donner? Pourquoi pas les inscrire, mais les éclire des femmes? Ça, c'est la deuxième question que j'aimerais poser à l'invité. La troisième question, c'est par rapport à, ça peut être rallié avec ce que mon prédécesseur venait à peine de parler de l'éducation financière. Je crois que madame l'invité a parlé de ça. Je ne sais pas, madame l'invité, quelle est en tout cas l'importance de l'éducation financière, cette fois-ci, dans le processus de l'autonomisation des femmes. Je sais, c'est tout ça. Mais quelques préoccupations que j'avais à madame l'invité.
Merci, Thomas Ougeni, depuis la ville de Kisangani. On va accueillir Joseph qui nous appelle Delicacy. Bonjour, Joseph. Joseph, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à l'invité.
Bonjour, Joseph.
Ok. Je me sens déjà en entendant la voix de maman qui parle à votre micro. Je voulais plaider ainsi que vous, le maman qui est tout près du président, vous n'allez pas plaider le droit du maman, ce que je vois aussi, notre maman d'aujourd'hui, qui s'habille avidement, qui promène tout nu à la rue. Par-ci, par-là. Est-ce que vous donnez la valeur à cette jeune fille qui fait comme ça? Est-ce que demain, elle peut arriver au...
Mais aujourd'hui, Joseph, on parle de l'inclusion. Joseph, on parle de l'inclusion financière. Voilà, on va aborder ça dans une autre émission prochainement. Merci. Madame Lydie Omanga, vous avez la parole.
Alors, je trouve vraiment très, très, très intéressant toutes les questions qui ont été posées parce que c'est celles qui vont faire l'objet justement de nos discussions le 3 décembre à travers des panels. Mmh. Je sais, donc pour balayer rapidement les mesures, Blaise demande quelles sont les mesures pour inciter justement les femmes à plus d'inclusion, comment est-ce que les entreprises de microfinance s'adaptent à la digitalisation.
Est-ce qu'ils ont des produits financiers adaptés aux femmes?
Alors déjà, je vais quand même mettre une petite réserve en sachant que je ne suis pas une entreprise de microfinance. Oui. Je ne représente pas non plus tous les pouvoirs publics, mais effectivement, ce que je peux apporter comme réponse par rapport...
D'abord, l'inclusion financière, qu'est-ce que cela veut dire?
L'inclusion financière, c'est le fait de pouvoir faciliter à tout un chacun le fait de pouvoir avoir accès, que ce soit à un crédit, que ce soit un microcrédit aussi, que ce soit même à des... comment est-ce qu'on appelle ça? À une carte bancaire, à un compte bancaire. Donc, c'est ça, en fait, l'inclusion financière. Et le gouvernement, l'ancien ministre des Finances, Monsieur Nicolas Cazadi, a justement mis en place une stratégie d'inclusion financière 2023-2028. Et dedans, il y a beaucoup de mesures qui ont été explicitées, expliquées pour favoriser l'inclusion financière. Mais à la lecture de cette stratégie, on se rend bien compte que on a vraiment fait les choses de manière générale et globale. On n'a pas du tout mis en exergue vraiment le côté genre. Or, Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment avoir quelque chose d'inclusif et non pas d'exclusif, nous devons réfléchir au genre, mais sous l'angle de l'inclusion financière, parce que c'est différent. Vos auditeurs l'ont bien dit à juste titre, qu'en est-il parce que les femmes rurales et les femmes au niveau des villes, c'est pas la même chose,
c'est
du
pas
tout.
La même, ouais,
ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle de la digitalisation peut jouer un rôle? Oui et non. Pourquoi je dis ça? Oui, la digitalisation va jouer un rôle de manière générale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le M-Pesa, tout le monde utilise le mobile banking, si je peux le dire. Oui. Mais aujourd'hui, la connectivité n'est pas présente partout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les solutions doivent être toujours être complémentaires. On ne peut pas privilégier une solution. On peut avoir un compte bancaire, mais on peut avoir un M-Pesa, mais il faut aussi penser à d'autres moyens, aux microfinances. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner les choses, à 360 degrés, parce qu'on s'adapte au lieu, à la cible et à l'objectif qu'on veut atteindre. Et toutes les personnes qui ont besoin d'avoir de l'argent pour du financement, pour autre, ne sont pas dans les mêmes situations. Et maintenant, d'une manière générale, si je puis continuer à répondre aux questions, oui, les entreprises de microfinance ont des solutions adaptées aux femmes. Et d'ailleurs, il y en a
surtout
beaucoup.
Surtout les femmes qui sont dans les coopératives.
Tout à fait, non seulement dans les coopératives, mais même celles qu'on appelle les mamans maléwa, même les jeunes filles. Parce que toutes les femmes ne sont pas formalisées, c'est beaucoup d'informels. Mmh. Et justement, c'est là où les microfinances viennent jouer un rôle. Parce que ce sont en quelque sorte des tontines qui sont structurées et organisées, et avec des garanties. Et souvent, les femmes se réunissent pour pouvoir aller prendre un prêt, pour pouvoir aider, mais dans le cadre d'une microfinance. Et d'ailleurs, le 3 décembre, nous allons inviter beaucoup de ces entreprises, dont je ne veux pas faire des pubs ici, mais bon, voilà. Mais
on va en inviter.
Alors, le rôle des associations, nous, on a un rôle qui est majeur, parce qu'en tant que société civile, nous, on est au plus près et au quotidien, et on les voit, ces femmes, au quotidien. Par exemple, pour l'association Femmes d'Exception du Congo, cette année, nous avons fait que organiser des formations en inclusion financière. Et former, une femme formée est une femme transformée. Donc, former, c'est quoi? Ça veut dire vous apporter non seulement la connaissance, mais souvent renforcer les compétences que vous avez ou même vous apporter des outils. Maintenant, ce que nous faisons, c'est pas une inclusion financière au sens on veut pas en faire toutes des chefs d'entreprise, parce que c'est pas ce qu'elles veulent
non,
toutes.
C'est, non.
Ce qui nous importe, c'est de pouvoir leur donner les clés et les outils pour même gérer les finances de la maison. De quelle manière, même lorsque vous avez un budget, vous devez l'organiser pour pouvoir vous retrouver à devoir gérer des imprévus, entre acheter la nourriture, payer le Minerval, comment on fait? Vous voyez? Mais en même temps aussi, celles qui veulent se formaliser. Quels sont les parcours de formalisation?
Oui.
Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? Et celles qui sont formalisées maintenant, comment je fais pour obtenir un crédit? Comment
est-ce
je
que le guichet unique des créations d'entreprises sera associé ou
Le guichet unique, à ce stade, on les invite, mais on les a pas mis particulièrement sur un panel.
D'accord.
Parce qu'effectivement, comme on parle plus d'inclusion financière, on a vraiment voulu axer, par exemple, le panel 3, sur l'accès justement au financement. De quelle manière les banques, quelles sont les solutions que les banques proposent, quelles sont les solutions que les institutions de microfinance proposent. Et
Il y aura combien de panels ce jour-là?
Au total, on a 3 panels. Vous avez le panel d'ouverture.
Oui.
Et on a un invité d'honneur qui, en tout cas, donné son accord de principe, c'est le docteur Adesina, qui était l'ancien président
de la
BAD. Banque africaine de développement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait sous son leadership avec le programme AFAWA. Ça a été un programme qui a été justement mis en place pour pouvoir inclure financièrement des femmes paysannes au niveau de l'agriculture, les aider justement à pouvoir développer leur structure. Et aujourd'hui, c'est un programme qui est au niveau de l'Afrique continentale l'une des meilleures réussites. Et donc, on aimerait justement avoir cet homme qui est un Iforchi, un pro-genre. Mmh. Et c'est bien de pouvoir justement avoir l'entente d'un homme. Parce que souvent, on oublie que c'est ensemble qu'on construit la société. C'est pas les femmes contre les hommes, c'est ensemble. C'est pour ça qu'on milite dans ces rencontres, pour pouvoir expliquer justement aux hommes que nous avons besoin de vous, parce que c'est ensemble qu'on va construire. Et le premier panel est le panel d'ouverture, donc on invite aussi le gouverneur de la Banque Centrale, parce que justement, quand on parle des mesures politiques, etc., qu'est-ce que la Banque Centrale fait pour pouvoir inciter les banques commerciales justement à plus d'inclusivité? Parce que c'est lui qui est le régulateur. Mmh. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut demander aux banques commerciales d'avoir des tarifs préférentiel pour les femmes qui ouvrent des comptes bancaires? Jusqu'à quand, etc. Et si c'est le cas, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est surveillé? Est-ce que c'est incitatif?
Mmh. On a aussi et le... si elles prennent des crédits, quels sont les taux?
Exactement, quels sont les taux et puis quelles sont les garanties, etc. Mmh. On aura aussi, on a aussi invité le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances, parce que en fait c'est un panel d'ouverture, parce que tout ça ce sont justement le croisement des, de la politique continentale au niveau de l'Afrique et de ce que nous au niveau de la RDC nous faisons tant au niveau de la régulation qu'au niveau du gouvernement pour que nous puissions favoriser l'inclusion financière. Le deuxième panel sera un panel consacré justement à la formation parce que nous mettons en avant les femmes que nous avons formées. Mais les femmes que nous avons formées pour qu'elles puissent partager leur expérience, pour qu'elles nous expliquent qu'est-ce qui fait, parce qu'on a trois modules, qu'est-ce qui fait qu'elles sont, elles, arrivées au module 3. Ce sont donc ces apprenantes, celles qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Mmh. Mais en même temps, ce sont aussi, par exemple, des organismes aussi de formation, comme on a invité le FOGEC, on a aussi invité le FPM, parce qu'on aimerait, parce qu'eux aussi font des formations, on aimerait vraiment expliquer pourquoi la formation est si importante. Parce que c'est le premier pas vers une inclusion financière. Et d'ailleurs, dans la stratégie nationale, il est question aussi de pouvoir, dès l'école, commencer déjà à sensibiliser les étudiants, les élèves à l'inclusion financière et à la gestion financière.
Mais il semble que si certaines femmes ne peuvent pas recevoir les crédits parce qu'elles n'apportent pas des projets bancables, peut-être ne savent pas peut-être comment rédiger un business plan, tout ça.
Et mais c'est justement ça l'objet des formations.
Pour être éligible.
C'est ça l'objet des formations, c'est-à-dire qu'on les aide justement maintenant à structurer. Parce que comment est-ce que je vais parler à un banquier? Comment est-ce que je vais, en fait, si vous voulez, défendre mon budget? Le volume, le module 3 d'ailleurs, les apprenantes pitch leur projet, mais le pitch
représente
oui
pitch,
ah non c'est ce qui c'est ce qui non c'est ce qui a été fait parce qu'en fait c'est ce qui a été fait, c'est le dernier module à pitch. Au vu de tout ce qu'elles ont appris au module 1 2 3, elles doivent être capables de présenter en fait vous venez pourquoi devant le jury. Je viens parce que je voudrais demander un crédit, je viens parce que je cherche un investisseur. Donc de quelle manière maintenant vous allez argumenter au vu de votre activité ou au vu de ce que vous voulez faire et des chiffres que vous avez, quel est le montant, est-ce que c'est possible. Et c'était très intéressant parce que en fait, il s'est avéré que celle qui était la plus pertinente n'était pas celle qu'on pensait.
Ah.
C'était une maman maléwa.
Ah, une maman maléwa.
Une maman maléwa lingalophone.
Qui a cet exprès à lingala et qui a convaincu tout le monde.
C'est elle la majeure de promotion.
Waouh.
Oui, avec 18 sur 20.
Waouh.
Et oui.
Elle vraiment, a été financée à quelle hauteur?
Elle a demandé un financement à hauteur de 5 000 $ et je pense que nous-mêmes, les femmes d'exception, on va l'accompagner.
Bien, on va accueillir...
Le troisième panel, c'est le panel justement sur l'accès bancaire.
L'accès bancaire, d'accord. On va accueillir Ismaël Mumpoy depuis Lubumbashi et puis Emina Mwanda qui nous appelle depuis Bukavu. Ismaël, bonjour. Bonjour Ismaël.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à Madame l'invité.
Bonjour Ismaël.
On vous écoute.
Ah ouais, merci beaucoup. Je pense que... de défendre, c'est que la cause. Mais la grande question, c'est de savoir, nous sommes en RDC, elle peut nous répondre de savoir les taux de la banque de crédit à Congo pour tout le monde, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, aujourd'hui, relève à combien de pourcentage? S'il est difficile à un homme, est-ce que serait-il facile aussi pour une femme qui a des projets d'avoir un peu l'accès à la banque, avoir son crédit? Vous voyez un peu l'article 58 de notre constitution. D'abord, mettre Omar Kigalo aujourd'hui pouvait intervenir un peu d'aider la dame. Il dit le partage équitable de notre forteresse de la République. Mais de force que même les hommes n'ont pas l'accès à la banque, et la banque n'existe même presque pas, la banque de crédit agricole. Parce que nous avons l'agriculture aujourd'hui qui peine. Tel domaine peine. Il n'y a pas l'accès au crédit. Mais s'il s'agissait de la femme qui a une certaine innovation, vous avez vu celui qui a commencé avec les robots de circulation routière, Madame Kirongozi, a commencé avec ce moyen de bord. Dernièrement, elle se plaignait pour savoir comment même réparer ou faire réparer par l'État cela. Et ça sera facile. Et quelle sera la mesure concrète que la dame qui est là, comme on appelle la pionnière, de cette initiative pourrait donner ou écrire sur l'ordre public en vue qu'une femme, soit c'est par la peine, soit c'est par manque de moyens, qu'elle puisse un peu se saisir. La formation en soi qu'elle a parlé, il s'agissait de quelle formation, à quel niveau. Parce que nous avons la formation en leadership, en management, pour donner le courage. Je n'ai rien, mais je vais entreprendre. Mais à quelle porte elles vont toquer pour avoir bien des codes de ce qu'ils vont faire. Par contre, je tiens vraiment à remercier, parce que les femmes congolaises montrent de quoi elles sont capables de faire aujourd'hui.
Bien,
nos mamans nous ont fait grandir,
oui.
Tant qu'elles n'avaient pas fait la médecine. Elles aussi aujourd'hui ont toute compétence de faire ce qu'elles peuvent faire. Aller chez l'État, leur dire, nous voulons relever les défis. Oui, même l'essai de représentativité au niveau des élections qu'on sort là. Qu'elle initie quand même beaucoup d'efforts, pourvu qu'on arrive à avoir des députés, des ministres, des consulats, au lieu de reculer. Femmes congolaises, avancez. Nous sommes derrière vous, nous les hommes conscients. Parce que moi, je suis de la société civile, je suis derrière vous. Avancez, madame. Je vous dis, je vous remercie. Merci.
Merci, monsieur Mumpo Ismaël, depuis la ville de Lubumbashi. On va donner la parole à un autre auditeur, cette fois-ci, qui nous appelle de Bukavu, au sud Kivu. Éminent Mwanda, bonjour. Éminent, bonjour.
Bonjour à tous les invités.
Bonjour,
Éminent. Bonjour à tous les invités de la radio et à toutes les petites entreprises.
Oui, quelle est votre question?
L'autonomisation financière des femmes, hein, passe par l'éducation, la digitalisation des produits inclusifs et un cadre légal favorable. La collaboration entre États, les ONG, les banques et le leader communautaire est essentielle pour réussir cette transformation. Pour assurer une inclusion financière effective des femmes en République démocratique du Congo, plusieurs stratégies doivent être mises en œuvre afin de surmonter les barrières économiques, sociales, culturelles qui freinent leur accès aux services financiers. Je pense que je peux proposer certaines solutions. Il faut qu'il y ait d'abord un renforcement de l'éducation financière des femmes. Il faut qu'il y ait le développement des produits financiers adaptés. Il faut la promotion et la digitalisation des services financiers. Il faut soutenir les groupements d'épargne pour les crédits. Comme par exemple ici chez nous à Bukavu, nous avons l'association villageoise.
Les AVEC.
Association villageoise des femmes et des crédits.
Les AVEC.
Il faut aussi faciliter l'accès au financement des PME en créant le fonds de garantie pour les femmes entrepreneurs. Éliminer les barrières juridiques et culturelles. Parce que nous savons très bien qu'actuellement, c'est la femme qui peut aider les ménages à faire vivre, surtout chez nous, où nous traversons les moments les plus difficiles. Où toutes les banques sont fermées, parce que j'ai bien entendu m'inviter, et l'accès au financement au moins des banques. Mais chez nous aussi, je peux poser la question aux invités, comment cela peut se faire au moins des banques au moment ici à Bukavu, et dans des zones occupées par le mouvement de M23, il n'y a plus vraiment les banques ne sont pas opérationnelles. Comment cela peut se faire, et quelles sont les réalisations concrètes que cette autonomie a déjà fait pour aider les femmes à s'autonomiser d'une manière financière. Merci, je dis et je remercie, bonne suite de la journée chez vous.
Merci bien, Éminent Mwanda, depuis Bukavu. Bien, voilà autant des préoccupations et des propositions. Madame Omanga, vous avez la parole.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des hommes qui... Comme c'est quoi, c'est Monsieur Ismaël, hein, il a dit que lui c'est un homme conscient et qui est de la société civile. Merci beaucoup Monsieur Ismaël, on a besoin des hommes conscients,
des hommes comme
vous. On a besoin. Par contre, pour répondre à votre première question par rapport au taux du crédit, je ne suis pas une institution bancaire, donc je ne vais pas commencer à m'avancer à donner des informations complètement erronées. Par contre, je transmettrai éventuellement ici, suite à la rencontre du 3,
oui.
Les conclusions. Comme ça, vous pourriez peut-être
partager.
Faire le suivi.
D'accord.
Hein, parce que c'est très important. Comme ça, on sera éclairé aussi
mais
sur le
taux. Mais vous pouvez faire un plaidoyer pour demander à ces institutions
de revoir
à la baisse les taux.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mm. Parce que le fait d'inviter justement le gouverneur de la Banque centrale, c'est parce qu'on aimerait voir avec lui qu'est-ce que la Banque centrale met en place pour pouvoir justement encadrer l'inclusion des femmes. Parce que je pense qu'il faut vraiment avoir des services et des propositions qui s'adaptent aux femmes pour les inciter à ouvrir des comptes bancaires, les inciter à mettre l'argent sur ces comptes bancaires-là. Donc c'est pas en ayant des frais bancaires qui vont être de 1 dollar ou de autre, ça c'est pas possible.
Oui.
Voilà, donc ça veut dire que toutes ces choses-là, c'est au niveau du cadre, au niveau en fait du celui qui est le policier. Du secteur. Donc c'est pour ça qu'on l'invite, parce qu'on aimerait qu'il puisse nous dire ce qu'il en est. Et d'accord. De la même manière, au niveau de l'inclusion financière, c'est bien bon de faire une stratégie. Mais est-ce que dans la stratégie, on fait ce qu'on appelle la segmentation ? On fait comment pour les femmes ? On fait comment pour les jeunes ? J'ai vu qu'il y a eu jeunesse, et plus jeunesse même que femmes, même si tous les deux étaient souvent un peu mis en exergue et tout. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir des outils genrés, si je puis dire, même au niveau de l'inclusion financière. Parce qu'une femme ne gère pas de la même manière qu'un homme. Souvent, gère mieux.
Ah, c'est ce qu'on dit toujours, hein, avec les femmes.
Parce que on a une capacité à anticiper, à voir loin. Donc, on se dit déjà, je mets déjà de côté pour cette situation-là parce qu'elle va arriver. Alors que souvent, je pense que peut-être que les hommes ont une manière aussi différente parce qu'ils ont peut-être aussi été habitués de leur jeune enfance à gérer les choses autrement. Alors que nous, depuis qu'on est petite, on nous apprend à gérer beaucoup de choses. Donc, avoir une capacité d'anticipation. Maintenant, par rapport à...
J'ai entendu, il a parlé aussi peut-être de la création d'une banque agricole.
Voilà. C'est vrai que beaucoup, souvent on en parle. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a quand même aussi... On a invité aussi le président de la Cadeco, parce que c'est une banque d'épargne, mais c'est une banque d'épargne de l'État. Donc je pense qu'à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait voir, parce que là aujourd'hui, Monsieur Célestin Moukeba est venu pour redynamiser. On l'a invité pour qu'il puisse nous dire qu'est-ce que cette redynamisation va intégrer au niveau de la stratégie qu'il va mettre en place pour l'inclusion financière aussi des femmes. Monsieur Ismaël a aussi parlé des difficultés déjà que les hommes ont pour pouvoir accéder au crédit. Donc qu'est-ce qui va en être pour les femmes ? En fait, c'est le même combat à ce niveau-là, hein, parce que quand vous n'avez pas accès au niveau du crédit, que ce soit homme ou femme, c'est le même combat, mais c'est pire pour une femme, parce que bien souvent, les femmes, elles n'ont pas souvent accès à la terre, ou elles ne sont pas propriétaires de la terre, ou elles ne sont pas propriétaires de biens, tout simplement, alors que ce sont souvent des éléments que les banques demandent que vous puissiez apporter en garantie.
Comme garantie. Ouais.
Exactement. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, que ce soit les hommes et les femmes, nous faisons face quand même aux mêmes difficultés, même si souvent, pour la femme, c'est toujours un petit peu plus accentué, et c'est les mêmes. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous on fait, nous soutenons une AVEC. Et on avait commencé une avec Annie Ragongo.
Okay.
Et c'est vrai que du fait de ce qui s'est passé, de la situation d'agression, etc., tout ce qu'on peut faire, justement, même reprendre contact a été difficile parce que les numéros ne passent pas. Mais nous soutenons, et ça, c'est quelque chose qui nous avait justement incité à prendre ce thème ici pour pouvoir travailler.
Et comment ça fonctionne dans une AVEC, une association villageoise d'épargne et de crédit?
Alors, comment ça fonctionne? En fait, elles se mettent toutes ensemble.
Peut-être au nombre de 10, 3, 4, 5.
Non, plus. Nous, c'est deux avec de plus d'une centaine, hein. Plus d'une centaine de
femmes
qui se mettent ensemble.
Oui.
Et chacune va peut-être apporter 5000 francs. Elles vont mettre 5000 francs, même 1000 francs tous les mois. Mm-hmm. Et quand il y en a une qui a besoin d'avoir un fonds ou un financement, eh ben, c'est là qu'on lui donne. On lui donne, bien sûr, avec un délai, etc. Et elle rembourse avec un petit,
un taux,
etc. pour qu'on puisse demain refinancer
une autre. Aussi à une autre.
Exact. Nous, ce qu'on avait fait, on avait soutenu, c'est-à-dire que FDEC avait apporté, une quote-part pour le mettre dans le fonds commun pour pouvoir justement aider au financement, des différentes actions. Et on avait prévu de revenir pour pouvoir voir de quoi elles avaient besoin effectivement, parce que l'idée c'était de pouvoir les aider maintenant à structurer les choses de manière à pouvoir même faire un suivi et mensualiser l'aide. Voilà.
Mais est-ce qu'il faut toujours s'assurer, est-ce que les femmes, il y a d'autres femmes qui ne vont pas rembourser à l'échéance convenue, est-ce que ça marche toujours ou
non, en général, vous savez, elles ont une autodiscipline, hein. Parce qu'elles savent très bien qu'elles se connaissent. Elles savent très bien qu'elles ont besoin les unes des autres. Et d'ailleurs, quand vous commencez comme ça, vous êtes en train de vous exclure. Parce que votre réputation...
Ouais, c'est rassalé.
Donc, on ne va plus faire appel à vous. Non. Elles sont bien, bien outillées, ne vous inquiétez pas. Et par contre, il y a le FOGEC qui existe. Le FOGEC.
Le Fonds des garanties.
Oui. Donc, par rapport aux entrepreneurs, parce que je pense que M. Ismaël en avait parlé aussi, ça existe et c'est là. Et d'ailleurs, on a invité aussi la directrice adjointe pour venir, Madame Hélène, pour venir s'entretenir avec nous, comment ils travaillent, comment ils font, sur quels critères, etc.
Oui. Bien. Éminent Mwanda de Bukavu nous dit qu'il y a des barrières qu'il faut briser pour favoriser l'inclusion financière. Notamment, il a parlé d'abord de l'éducation financière. Est-ce que le FDEC travaille travaille aussi sur cet aspect.
C'est ce qu'on
l'éducation
fait.
Financière.
Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qui nous emmène au 3 décembre. Tout au long de l'année, on a organisé des ateliers de formation sur l'éducation financière. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de comptabiliser le nombre de femmes qu'on a formées, c'est vraiment d'apporter une qualité. Et ça commence déjà par de quelle manière. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a été chercher en tout cas parmi les meilleurs formateurs. On a travaillé avec Wifi et VOM Consulting, et ce sont des personnes qui sont vraiment du secteur. Souvent, ce sont des personnes qui étaient eux-mêmes des DG ou des DGA de banque. Donc, ils savent comment ça se passe, ils savent ce que le banquier attend lorsque vous venez présenter.
Et ils peuvent venir vous orienter.
Exactement. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner, parce que toutes les femmes n'ont pas le même niveau. C'est pour ça qu'on a 3 modules. Mmh. Et quand on parle d'inclusion financière, on parle aussi de vocabulaire financier. Donc, il y a un glossaire qui est mis en place parce qu'elles doivent comprendre qu'est-ce que c'est que le coût, qu'est-ce que c'est que le prix de revient, les amortissements, etc. Et pour tout à l'heure, quand je vous disais que c'était une maman maléoua, parce que ce qui nous avait surpris, mais dans le bon sens, c'est que elle a tout compris et dans son pitch, elle a intégré tous les termes, mais
elle s'est exprimée en lingala,
mais les termes, elle les donnait en français, mais elle les donnait vraiment d'à propos. Mmh. On lui a demandé à un moment quel est votre revenu. Elle a dit net ou donc vraiment c'est.
Ah ouais.
On a dit oula et ça non mon chiffre d'affaires net ou machin. On a dit waouh et vraiment à l'aise.
Ouais.
Mais je pense aussi l'avantage qu'elle avait, elle avait déjà commencé, elle travaillait déjà. Donc la formation est venue en fait éclairer et lui apporter un renforcement là où peut-être elle ne mettait pas le nom et là où elle ne faisait pas attention.
Son capital était de combien?
Alors, elle nous expliquait que tous les jours, elle, pour pouvoir faire son fonds, il lui fallait $500. $500 tous les jours pour acheter tout ce dont elle avait besoin pour et que par jour, elle gagnait 800.
$800?
Oui.
Des revenus?
Oui. C'est-à-dire qu'une fois que les 500 étaient payés, donc elle faisait 300. De bénéfices.
Des bénéfices.
Donc, elle disait qu'avant, elle ne s'en rendait pas compte parce qu'elle ne calculait pas le plat. Combien le plat coûtait et combien de plats il lui fallait. Donc là, elle était capable de dire, il me faut 50 plats par jour pour être rentable.
Telle portion,
voilà, pour être rentable. Parce qu'on lui a appris à mesurer, à peser, savoir que quand vous achetez un sac de riz, un sac d'haricots, ça vous fait combien de plats. Parce que ce sont des éléments qu'elle n'avait pas forcément intégrés dans le prix qu'elle donnait et tout. Et là, aujourd'hui, elle est venue en disant, mais voilà, il me faut 50 plats. Quand je vends 50 plats par jour, je sais que je suis à zéro. Et à partir de 51, je commence à faire du chiffre. Franchement, c'était super parce que vous voyez la transformation. Une personne qui arrive, qui est timide, qui vous dit déjà je n'aime pas les chiffres, je n'aime pas calculer, et qui sort de là en vous disant non, c'est moi le soir qui explique à mon mari comment est-ce qu'on doit calculer, comment on doit refaire les comptes. Et vous vous dites bon bah elle a tout compris.
Alors qui sont les autres intervenants au cours de cette rencontre des femmes d'exception?
Alors on a voulu quand même avoir la représentation d'une banque, donc on a choisi la banque Equity. Parce qu'on se dit, en regardant sur la place, on s'est dit que c'est eux qui avaient les services financiers qui étaient les plus à même de pouvoir s'adapter.
Les
produits financiers qui s'adaptaient le mieux aux femmes. On a aussi on a invité aussi monsieur Gervais Milandou, parce que je dis tout ça sous réserve, parce qu'ils ont été invités. Bon, d'ici le 3 décembre, peut-être que leurs agendas respectifs ne leur permettront pas.
Mais en
tout cas, voilà, nous on les a invités. C'est le président du conseil d'administration de la microfinance, bisous bisous. Et ce qui est intéressant, c'est que monsieur Gervais, lui, il a commencé lui-même comme vendeur. Dans les rues.
De quoi?
Dans les rues, un chailleur qui vendait des sous-vêtements, de la lingerie.
Ah oui?
Oui, et c'est le propriétaire des hôtels Léon. Et aujourd'hui, il a une
belle histoire à raconter.
Exactement.
Un parcours intéressant.
Exactement. C'est pour ça que, tiens, il peut même vous intéresser, parce que je pense que par rapport à votre éclairage sur l'entrepreneuriat, lui, vraiment, c'est un exemple, parce qu'il a commencé par vendre dans la rue, des sous-vêtements pour femmes. Et aujourd'hui, il est propriétaire de l'hôtel Léon, ici à Kin, à Brazzaville. Et bisous, bisous, parce qu'il avait racheté le bisou bisou qu'on connaît là au niveau de commerce qui vendait les tissus.
Ouais.
Et les femmes venaient pour lui demander, mais là je peux pas payer maintenant, est-ce que, eh ben, il a créé une tontine comme ça. Et c'est comme ça que sa microfinance a commencé. Bon, il se met mieux placé pour l'expliquer, mais moi ça m'avait déjà interpellé. Je me suis dit non, lui on doit l'avoir parce qu'il faut qu'il se raconte. C'est très inspirant.
Ouais, c'est très inspirant. Et Eminent nous dit qu'il est important aussi il revient aussi sur la digitalisation des produits financiers. Bon, vous l'avez relevé tout à l'heure que si toutes les femmes n'ont pas accès
toutes les femmes n'ont pas accès à l'internet. C'est pour ça que nous l'année prochaine c'est notre cheval de bataille. Parce qu'on a une composante 4 qui est la réduction de la fracture numérique entre les sexes. Donc l'année prochaine, nous allons maintenant commencer des formations en numérique pour les femmes. Elles seront aussi gratuites. Et l'objectif justement, c'est de pouvoir expliquer aux femmes qu'est-ce qu'est le numérique, pourquoi est-ce que votre téléphone va devenir de plus en plus votre carte d'identité, votre
compte bancaire. Vous pouvez faire des affaires à partir de vos téléphones.
Mais il y en a beaucoup qui font des affaires à partir du téléphone.
Oui.
Donc, la digitalisation, aujourd'hui, au niveau de la banque, est importante. On appelle ça les fintech aussi, souvent. Hein. C'est tout ce qu'on a comme mobile banking, M-Pesa, Vodacash ou autre. Et, mais il faut que les gens comprennent. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vous êtes en train de leur expliquer et ce qu'ils vivent. Alors que les personnes peuvent s'approprier très vite les façons de faire, parce qu'aujourd'hui, M-Pesa est partout. Les personnes n'ont même pas besoin forcément de savoir lire et écrire, mais savent utiliser M-Pesa, parce que dès qu'il s'agit de recevoir de l'argent, croyez-moi,
oui,
on trouve les ressources. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à construire et à bâtir, mais ça suppose derrière que justement il y a une éducation, qu'on puisse comprendre pourquoi il faut y aller et comment est-ce qu'il faut y aller, parce qu'on n'y va pas n'importe comment. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est aussi cyber, sécurité et attaque doit aussi s'appliquer dans tous ces outils en matière de digitalisation. C'est pour ça justement qu'on doit développer ce qu'on appelle la confiance numérique. Parce que quand vous mettez votre carte bancaire en ligne pour acheter quelque chose, il faut que vous soyez sûr que demain, on va pas commencer à vous rançonner tous les jours $1, $1 et mine de rien, tout fait nombre. Donc la digitalisation est importante en matière d'inclusion financière et je pense que de plus en plus de banques, et même de ce que j'ai lu, même au niveau du gouverneur de la Banque centrale, il est aussi en train de travailler là-dessus pour pouvoir l'intégrer un petit peu plus au niveau des banques commerciales.
Bien, et puis Emina nous parle aussi des barrières culturelles, des barrières culturelles, tout ça, sur la sociologie. Et il semble qu'il y a certains même hommes qui n'appuient pas leurs femmes dans ce qu'elles font, et pourtant...
Mais parce que je pense que ici aussi c'est une question d'éducation, c'est comme pour tout, hein. Tout le monde n'est pas masculin positif. Vous avez une masculinité qui est très toxique et vous voyez très bien que dans nos sociétés africaines très patriarcales, c'est vraiment compliqué souvent pour une femme de pouvoir se lever et de s'exprimer. Donc je pense que ça part d'une éducation. On doit expliquer nous les mamans. Nous avons, nous les femmes, même celles qui ne sont pas mamans, parce qu'elles ont des neveux, elles ont des frères, nous avons un rôle, et souvent on oublie, parce qu'on est toujours en train de fustiger l'homme. Mais moi je dis souvent, la première personne à fustiger, c'est la femme, parce que c'est la main qui a la main sur le berceau, qui dirige le monde. Et les mains sur le berceau, ce sont les mains des mamans. Donc c'est à nous d'expliquer à nos fils, d'expliquer à nos frères, etc., qu'une femme, voilà ce qu'elle est capable de faire. Moi j'ai un garçon. Je n'ai pas eu la chance d'avoir de fille. Et je me rappelle très bien quand mon fils m'a fait une remarque au sujet d'une fille en disant « Mais maman, c'est une fille. » Je lui ai dit « Bah... »
Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
Non, mais justement, il avait quoi, 5 ans ? Je lui ai dit « Mais Louis, moi, je suis qui ? Toi, t'es maman. » Je dis « Oui, je suis maman, mais je suis qui ? Est-ce que je suis un garçon ou une fille ?» Il me dit « Non, t'es une fille. » J'ai dit donc « Maman, qui paye tes factures ? Maman, qui paye ceci ? Maman, qui te soigne ? Maman. » J'ai dit « D'accord, donc ça veut dire que tu vois la fille là, elle aussi c'est une maman en perspective. Donc s'il te plaît, je ne veux pas que tu aies ce genre de propos parce que c'est une fille. Une fille est capable de beaucoup de choses et tu ferais mieux même de faire attention. Donc si nous-mêmes nous n'avons pas conscience que nous devons éduquer nos garçons pour qu'ils respectent les femmes,
les femmes oui.
Comment ça va se passer dans la société ? Parce que vous ne donnez que ce que vous avez reçu.
Et donc, certains pensent qu'une femme qui fait des affaires, c'est une femme légère, tout ça. Il y a des gens qui ont des préjugés,
Non mais... Ils ont des préjugés et ces préjugés sont dus à la société, je peux le comprendre, mais je ne les cautionne pas du tout. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les hommes souvent sont les plus légers, sauf que eux, ça ne se voit pas parce que bon, ils vont pas tomber enceinte, ils vont pas avoir des problèmes, parce que voilà. Mais une femme qui fait des affaires, elle n'est pas légère du tout. Une femme qui fait des affaires, la légèreté n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou pas. La légèreté a à voir avec l'éducation que vous avez reçue et de quelle manière vous-même vous vous respectez par rapport à l'entendement que vous avez de votre corps et des rapports que vous avez avec. Donc un homme peut être léger. Une femme peut être légère, mais une femme qui fait des affaires et qui réussit, c'est juste une sacrée bonne négociatrice. Ça ne veut pas dire qu'elle est légère. Toutes les femmes ne se mettent pas dans un lit pour obtenir un contrat, ni un boulot.
Ah ouais.
Donc la promotion canapé, là, je pense que c'est un rêve. Hein, parce que vous verrez, si les hommes étaient honnêtes, ils pourraient vous dire combien ils se sont pris de gifles parce qu'ils ont osé aller dans ce cadre-là. Moi, j'en ai certains, hein, je pourrais vous dire. Hein, je ne veux pas les nommer ici, mais ils en ont pris des gifles.
Oui, ça marche toujours pas, cette affaire-là.
Non, ça ne marche pas. Oui. C'est comme je dis toujours, ça, c'est des choses qui ne durent qu'un temps, le temps de la soirée. Et après, il n'y a plus rien.
Donc, cela veut dire que pour faire des affaires, et pour une femme au Congo, il faut avoir des nerfs solides.
Pour faire des affaires,
il faut être armé, être déterminé.
Mais d'abord d'une compréhension de ce qu'on veut faire. Donc, et après, il faut se former. Et après, effectivement, il faut pas s'armer de patience parce qu'il faut pouvoir saisir les opportunités. Mais surtout, il faut, je pense, avoir un moral d'acier et se dire que j'y vais. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je donne pas de nom. Par rapport à la formation, il y a une jeune femme qui a présenté un projet et qui nous a dit « Vous vous rendez pas compte comment vous m'encouragez ?» Parce que mon projet, quand je l'ai apporté, à chaque fois, les gens étaient d'accord, mais moyennant.
Et quelqu'un dit où se déroulent ces formations dont vous faites allusion.
Alors où se déroulent ces formations? Alors nous avons eu la chance d'avoir Orange Digital Center qui nous a prêté gracieusement des locaux.
Le cadre.
Oui, le cadre. Donc c'est énorme parce que au lieu de payer des salles, du coup on a pu faire plus de formations. Mais aujourd'hui on a aussi Silicon Village. Bon, on paye parce que eux ils nous n'ont pas donné gracieusement. Donc je fais un appel à Silicon. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que ça se passe là où on a l'opportunité de les faire et en général sur le site internet www.fdec.cd, vous avez un onglet formation, vous pouvez trouver le formulaire, mais en même temps aussi, vous pouvez nous appeler. Nous avons le numéro de téléphone aussi qui est sur le site, ou même, bon, je peux le donner peut-être ici tout à l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut nous contacter pour les personnes qui sont intéressées. On est sur TikTok, on est sur tous les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on essaye d'apporter, bon, c'est pas du sur-mesure, mais par exemple, les gens sont étonnés parce que on offre le petit déjeuner et un déjeuner. Et okay. Ils disent, mais vous faites tout ça
et
gratuitement.
Et les participants, elles ne payent rien.
Elles ne payent rien parce que nous, on a, notre leitmotiv, c'est un leadership transformationnel. Et on veut, par nos actions, pouvoir montrer de quelle manière on aimerait que les uns et les autres se comportent. Aujourd'hui, nous, quand on dit que nous sommes femmes d'exception, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le chef de l'État qui nous a nommés comme ça. Hein. C'est pas du tout nous.
Ah, c'est venu.
C'est venu du chef de l'État parce que le 8 mars après, il a dit, je viens de passer deux heures avec des femmes d'exception. Et c'est comme ça que le nom est parti. Mmh. Mais quand vous dites que vous êtes d'exception, ça veut dire que vous ne faites pas les choses comme les autres. Vous avez un devoir d'exemplarité. Et cette exemplarité.
Faut se démarquer, quoi.
Exactement. Mais se démarquer pas pour de l'arrogance ou de l'orgueil. Se démarquer parce que vous devez faire les choses différemment pour montrer par l'exemple que voilà comment on aimerait que ça se passe. Donc quand on reçoit ces femmes. Vous voyez les embouteillages qu'on a aujourd'hui.
Ah oui.
Qu'est-ce qui se passe? On se dit, peut-être qu'elles arrivent, elles n'ont pas mangé. Donc nous, on prévoit quand même un petit déjeuner. Et on va vous faire une formation, mais il faut que vous soyez intellectuellement à même de recevoir les informations qu'on est en train de vous donner, donc pas fatigué. Et puis après, quand il y a une pause, pareil. Et puis le soir, vous repartez avec brochette de poulet, banane planta, parce que après, vous allez encore être dans les embouteillages, le temps de rentrer. Donc on tient à ça aussi.
Madame Omanga, on est presque à la fin de cette émission.
Ah, c'est dommage.
Ça passe très vite.
J'aurais voulu rester encore un peu. Vous me rappelez
hein? Lors de la première édition des femmes d'exception, il y avait, je pense, que la vice-présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette fois-ci aussi, la Côte d'Ivoire sera associée ou d'autres
non,
pays?
Non, le Sénat est associé parce que c'était le premier pays d'Afrique pour la masculinité positive et
La Côte d'Ivoire.
Oui, c'était la Côte d'Ivoire pour la représentation des femmes dans les institutions. Donc le président Ouattara avait été salué pour ça. C'est pour ça qu'on les avait invités parce que c'est en accord avec la gouvernance inclusive. Mais là, c'est le docteur Adesina.
Adesina qui sera là. Merci beaucoup, madame Lydie Omanga Dianjou, présidente de l'Association des femmes d'exception du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Jean-Claude Siala a assuré la mise en onde. Tati Makoupoukou a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Jonathan Chimanga s'est occupé des plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine. We'll be right back.